Voilà, bonjour à tous. J'enlève le masque d'autant plus facilement ce matin. J'ai pris un petit risque hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il y a les tests maintenant, les autotests qui existent pour le Covid. Alors hier soir, on s'est dit, bon, soyons fous. Donc je prenais un risque. Si tout à coup j'avais été positif, j'aurais pas pu être là ce matin. Parce qu'en principe, ces tests, s'ils sont positifs, la suite, c'est test PCR avec attente du résultat 24 heures, 48 heures. Donc je suis négatif, toute la famille on est négatif, donc on a un petit peu moins de risque d'être, comme ils disent, des propagateurs. Donc je n'aimerais pas souhaiter vous propager ici encore ce virus. Et voilà. Donc j'ai appris qu'il y a des gens qui étaient vaccinés. Donc voilà, il y a des possibilités et on a un espoir quand même qu'on sorte gentiment de ce tunnel qui est là actuellement et qui nous fait. Et qui nous fait souffrir et mais qui nous permet toujours, et c'est toujours une grâce de Dieu, je crois, on a toujours pu se rassembler, en tout cas durant maintenant ces derniers temps. Toutes les rencontres ont été arrêtées au niveau culturel, c'est plus possible. L'Église a toujours pu avoir ces rencontres de jusqu'à 50 personnes, et je crois que c'est un cadeau, une grâce de Dieu, qu'on a toujours pu se rassembler parce qu'on en a besoin. Voilà, donc j'aimerais vous saluer aussi ceux qui sont derrière l'écran. Je regarde vers vous, là, vers la caméra. Je crois que vous êtes là. Donc, bienvenue. Et puis, ce matin, je souhaitais partager autour d'un psaume que j'ai lu il y a quelque temps dans mon culte personnel. Et puis, voilà, quand je prépare un message, je réfléchis toujours un peu à l'avance, comment, sur quoi, comment. Et puis là, en lisant ce psaume, j'avais l'impression que, voilà, ça pourrait être un psaume qui pourrait être la base du message que je vous apporte aujourd'hui. Donc le psaume 84, c'est un psaume pas très long, il y a 13 versets. Donc on va le lire en entier. Si on compare, il y a des psaumes encore un petit peu plus petits. Il y a le psaume 100, je crois, c'est le plus petit qui a 5 versets. Mais on a aussi des bien plus longs, comme le psaume 119, avec exactement 176 versets. Donc on va lire ce psaume ensemble. Il sera sur les slides aussi. Il n'est peut-être pas écrit très grand, mais je l'ai quand même mis sur le slide. Vous avez la possibilité aussi de suivre sur vos tablettes, dans vos bibles, sur les différents supports que vous avez, ce psaume. Donc psaume 84 que je vais lire dans la version Bible du Semeur. Je soupire après ton temple. Au chef de chœur, un psaume des Coréites à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Ô, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, de lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1 000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà ce texte du psaume 84. Voilà, c'est un psaume, donc, fait partie d'un recueil de prières qui sont des poèmes qui sont chantés. On en chante aussi souvent dans nos églises. Encore aujourd'hui, aussi chez les Juifs, ils utilisent beaucoup ces textes pour être chantés et accompagnés souvent par des instruments. et qui sont écrits par divers auteurs. Donc ici, ce livre ici a été écrit par les descendants de Corée, on dit aussi les Coréites, et Corée étant un descendant de Lévi, et Lévi c'était la tribu qui avait le service dans le temple. Donc ces Coréites étaient soit des musiciens ou des chantres dans le temple, notamment au temps du roi David. C'est un livre un peu particulier, contrairement à d'autres livres où il y a une histoire, ou bien, par exemple, les petits prophètes, c'est un seul auteur en général qui écrit, ou alors les épîtres, on écrit une lettre avec un début, une fin, écrit par le même auteur à un destinataire. Ici, il y a plusieurs auteurs. Et j'ai trouvé une référence de David Wilgren qui a écrit un livre sur les psaumes. Et puis qui disait que c'était comme une anthologie, donc un recueil de morceaux choisis d'œuvres musicales ou littéraires, hein, c'est la définition d'anthologie, une compilation de textes indépendants, activement sélectionnés et organisés en fonction de certains besoins présents, invitant le lecteur à une plateforme de dialogue continu. Et c'est ce que nous avons ce matin, une plateforme de dialogue. Nous allons aussi pouvoir après échanger dans les petits groupes sur ce psaume. Mais voilà, on a mis des textes ensemble de différents auteurs. Et ce qui est aussi particulier, ça a été écrit sur une très longue période. On pense que ça a été écrit à peu près sur 1000 ans, les psaumes. Vous imaginez, un siècle, les plus anciens datent du 15e siècle avant Jésus-Christ, avec l'Exode, avec Moïse qui a aussi écrit des psaumes, jusqu'au 6e siècle après l'exil de Babylone, donc 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on pense ici que ce psaume de 84 a été écrit à cette période-là, peut-être encore durant l'exil, quand on voit au début les Coréites qui disent « Je languis après ton temple, je soupire d'être en... » C'est comme si eux ne pouvaient plus aller à ce temple et ils se réjouissaient, ils attendaient de pouvoir y retourner. Et où est-ce que ces psaumes sont utilisés, ont écrit, donc dans divers lieux et circonstances qui éclairent aussi leur interprétation? Ils sont utilisés encore aujourd'hui, et nous, dans les cultes en famille, dans le temple de Jérusalem, ou dans le temple, ou dans certaines fêtes, ou lors de pèlerinages à Jérusalem. Mais le psaume 84, si vous avez la version Nouvelle Bible Second, le titre c'est « Chant des pèlerins arrivant à Jérusalem ». Il semble que c'est assez clair qu'il était utilisé quand ils se rendaient à Jérusalem en pèlerinage, qui chantaient ce psaume. Et voilà, les psaumes, de façon générale, hein, ils sont là pour exprimer à Dieu ce qu'on a sur le cœur. C'est pour ça qu'ils sont si importants pour nous encore aujourd'hui. On prend les psaumes, ça nous aide à exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur, que ce soit notre louange, notre adoration, mais aussi des questions qu'on a, des colères qu'on a, des incompréhensions, des souhaits parfois de malheur pour les autres, hein. On voit des fois les psalmistes qui disent « Mais Dieu... traite-les comment ils ont besoin », donc on souhaite que les autres soient vraiment, qu'ils aient ce qu'ils méritent. Et c'est vrai qu'il y a tout ça dans les psaumes. Et j'ai pas fait une recherche ici, mais j'ai en tête que finalement la part, si on prend tous les textes des psaumes, la part qui est une louange à Dieu, une reconnaissance, c'est finalement une petite part des psaumes. Il y a toute une part, une grande part, où le psalmiste, il déverse son cœur devant Dieu, ses colères, donc il arrive à commettre lui-même devant Dieu. Et après, souvent, il revient vers Dieu, Dieu l'attire vers lui pour le louer. Mais il y a toute cette phase et je crois que pour nous aussi, dans notre vie personnelle, on peut s'inspirer de ces psaumes pour notre prière. J'ai comparé un peu les versions, mais je ne vais pas entrer en détail ici. On peut le mettre sur le slide, mais vous pourrez aussi retrouver, je crois que la présentation PowerPoint sera aussi après attachée à l'audio qui sera sur le site. Ou bien vous qui êtes derrière vos écrans, vous pouvez directement aussi aller voir. Il y a des différences, là j'ai pris trois versions, la Bible du Semeur, celle que j'ai utilisée pour lire, la Second 21 et la Nouvelle Bible Second. C'est toujours intéressant et je vous invite, je le prendrai aussi quelques éléments de cette comparaison dans la méditation tout à l'heure. Il y a des différences et je vous invite aussi, si vous avez les possibilités, aujourd'hui on a des Bibles facilement, je ne sais pas si vous utilisez des logiciels qui ont la Bible, en général ils ont toutes les versions, en tout cas une bonne partie des versions disponibles et parfois on peut en quelques clics aller prendre un verset, le comparer avec d'autres et c'est souvent riche pour comprendre le sens plus global aussi d'un texte. Ça veut aussi dire que le texte original a besoin d'être interprété et puis que nos exégètes, nos traducteurs ont aussi parfois traduit différemment certains mots, certaines significations. On peut passer à la slide suivante. Dans les premiers versets, et c'est le premier thème, un peu habiter, demeurer, résider dans la maison de Dieu. C'est les versets 1 à 5. Alors, que signifie habiter pour nous aujourd'hui? Habiter dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est lié à un bâtiment, comme ici, ami? Il est dit ici que nous sommes bienheureux, ou heureux, selon les traductions, d'habiter la maison de l'Éternel, car là, nous pouvons le louer toujours, ou le louer sans cesse. D'un côté, on languit, on soupire de ne plus pouvoir se réunir librement dans la maison de l'Éternel. J'imaginais ces Coréites, c'était des chantres, donc vous imaginez leur service, leur boulot, entre guillemets, c'était de jouer des instruments, de conduire la louange, et ils ne pouvaient plus. Et je vois aussi ici un piano qui est éteint depuis quelque temps, je pense. Les musiciens, qu'est-ce qui est musicien ici dans l'église? Voilà, il y a plusieurs musiciens. Est-ce qu'il y a des chantres? Quand je dis chantres, tout le monde chante, mais est-ce qu'il y a des chantres qui étaient dans la conduite de la louange aussi? Qui est-ce qui était chantre? Ou qui est chantre? Ils sont derrière là-bas, il y a des chants. Donc voilà, il y a comme... Alors moi, je suis aussi pianiste, musicien, et je sais que dans les églises, c'est aussi difficile actuellement. On peut plus chanter, on peut plus louer le Seigneur. Et je crois que dans nos églises dites évangéliques, on a mis un accent important sur ça, la louange. Et ça fait souffrir, c'est vrai, on peut plus, on soupire de pouvoir retrouver ces temps. Mais d'un autre côté, comme il est dit dans le verset 3, et comme pour les psalmistes ici, rien n'est au chemin pourtant pour adresser nos cris de joie à notre Dieu. C'est peut-être des cris de joie plus individuels. Tout à l'heure, j'entendais un peu les gens qui chantonnaient le deuxième chant. On a juste un tout petit peu chanté, donc on ne sait pas vraiment exprimer ce qu'on a sur le cœur. Donc, je vous encourage de faire le plus à la maison, si vous avez l'occasion d'exprimer votre louange à la maison. Mais rien n'est au chemin pour exprimer notre louange au Seigneur, notre joie. Pourquoi on parle ici de moineaux d'hirondelles? C'est pour ça que j'ai aussi pris cette image que je trouve très jolie d'une maman hirondelle qui apporte à manger à ses petits. Il y a deux interprétations qu'on peut trouver pour ce passage. Donc, une interprétation, c'est le psalmiste qui envie ces oiseaux qui peuvent nicher dans le temple. Donc, dans le temple de Jérusalem à l'époque, il les enviait parce qu'il ne pouvait plus aller. Ou alors, une autre interprétation qui est plus vraisemblable, c'est que tout comme ces oiseaux, le psalmiste, il a trouvé son chez-soi dans le sanctuaire de Dieu. Et j'ajouterai une troisième interprétation, un peu plus personnelle, qui est liée aussi à la nouvelle alliance que nous avons en Jésus, que c'est que toute la création, nous et toute la création, on soupire aussi après Dieu pour se sentir vraiment chez soi, à la maison, à sa place. Et là, on y est lorsqu'on reconnaît son Créateur et qu'on lui adresse notre louange pour toujours. Avec la venue de Jésus qui est ressuscité, on l'a fêté dimanche passé avec la Pâque, et l'envoi aussi de son Esprit, qu'on fêtera aussi bientôt, la Pentecôte. La présence de Dieu ne dépend plus de lieux géographiques. Elle se manifeste soit en tant qu'Église, mais là je prends Église avec un grand E, l'Église de Christ, ou par exemple dans Éphésiens 2, 21-22, on lit « En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être, donc nous l'Église, un temple saint dans le Seigneur, et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Soit aussi la présence de Dieu individuellement, il y a ce texte que vous connaissez certainement très bien qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Cette première, la maison de l'Éternel, c'était sous l'ancienne alliance un lieu, on allait à la maison. Aujourd'hui aussi, alors on vient ici, on s'est déplacé, mais il y a une dimension plus grande et plus, je dirais, plus accessible à la présence de Dieu, ce qui est juste extraordinaire de s'imaginer que Dieu est parmi nous par son Esprit. Qu'on soit ici, qu'on soit dans un groupe, qu'on soit un groupe de jeunes, que les enfants, Dieu est parmi eux. Et puis, Dieu est aussi parmi nous, dans notre cœur, en permanence. C'est un cadeau extraordinaire. Le deuxième point, et c'est les versets 6 à 9, puiser sa force en Dieu. Là, on trouve le deuxième, il y en a trois des bienheureux dans ce texte. On trouve ici le deuxième qui dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force ». Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Dans certaines versions, il y a aussi des chemins tout tracés. Alors, où est notre force? Ou qui est notre force? Ou bien, où puisons notre force? Et quelle force? D'après ce texte, il semble que cette force est liée avec des chemins tout tracés dans notre cœur. Et je vois ici une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Il y a un chemin tracé dans nos cœurs, un chemin préparé dans nos cœurs, préparé par Dieu, qui est notre force et qui est spécifique à chacune et chacun de nous. Mais je pense aussi qu'il est spécifique à chacune de nos communautés, à chacune de nos églises. Et je me posais la question si une source d'épuisement ne pourrait pas être liée parfois au fait qu'on veut suivre une autre trace, un autre chemin, celle d'une autre personne, peut-être même une personne, un frère, une sœur dans la foi, puis on dit on veut faire comme lui. Ah, ce qu'il fait là, c'est bien, je vais le faire. Alors oui, on peut être inspiré par les autres. Hein. On dit des fois d'être des modèles, ce n'est pas mauvais en soi. Mais je pense qu'ici, il y a un chemin tout tracé dans notre cœur. Et ce chemin, il est tout tracé. Et il nous est dit dans une des versions qu'il faut trouver ce chemin. C'est peut-être là notre défi aussi, c'est de le trouver. Il ne nous tombe peut-être pas dessus comme ça, il faut le trouver. Il est dans notre cœur, Dieu l'a marqué dans notre cœur. Une autre traduction de ce verset... Et aussi, de bon cœur, ils se mettent en route. Donc les pèlerins, de bon cœur, ils se mettent en route. Donc il s'agirait dans un sens un peu plus littéral ici, de la route de pèlerinage vers Jérusalem. Et nous, est-ce que nous marchons de bon cœur sur la route de pèlerinage vers Jérusalem? Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem. On ne considère pas ça comme un lieu de pèlerinage qu'on doit tous faire hein, en tant que chrétien, mais peut-être certains sont déjà allés. Qui est déjà allé à Jérusalem? Ah, il y en a plusieurs ici, super. Nous, on y est allé il y a 2 ans aussi, à Jérusalem, donc c'est un lieu de pèlerinage, mais pour nous, c'est surtout un lieu de pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Et c'est ça notre espérance. On parle de la Jérusalem céleste à plusieurs endroits dans la Bible, et notamment dans Hébreux 12, 22, que vous pourrez aussi lire, où il nous est dit, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fait. On nous parle de la vallée des larmes. Alors, il y a plusieurs explications, aussi termes. On parle dans certaines traductions la vallée de Baca ou des baumiers ou la vallée des pleurs. Selon le contexte, on parle après d'oasis, c'est un lieu sec, un lieu désertique qui peut devenir un oasis avec des pluies d'automne qui sont des bénédictions, comme il est dit dans le verset 7. Alors, est-ce que nous pleurons parfois? Est-ce que nous pleurons souvent? Jamais? Est-ce qu'on pleure peut-être plus aujourd'hui avec ce qui nous arrive? Est-ce qu'on sent parfois dans un désert spirituel? On a l'impression que tout est sec, c'est difficile, chaque effort nous coûte beaucoup. On lit la Bible, elle nous inspire plus beaucoup, Dieu nous parle peut-être pas. Vraiment quelque chose de sec spirituellement. Et la question, alors, comment ce désert se transforme-t-il en oasis? Comme on le voit ici, un oasis au milieu du désert. Je ne peux pas vous dire lequel c'est où. Je crois que c'est quand même, c'est en Israël, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà un lieu où tout autour c'est désertique et là il y a un oasis. Et je vois ici une réponse dans le verset 9 qui dit « Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. » Donc la prière est le moyen par lequel nous sommes en relation avec Dieu et qui a comme effet d'apporter des changements dans notre vie, des changements, des situations qui nous paraissent secs, difficiles, lourdes, devenir des oasis où la vie aussi se manifeste. On parle dans le verset 8, « D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. » Je vois ici une progression d'étape en étape. Donc ça veut dire, c'est pas d'un jour à l'autre, paf, ça change. D'un jour à l'autre, le désert vient un oasis, paf. Alors, parfois, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Mais je pense qu'il y a souvent le temps qui est, le facteur temps est le plus délicat et peut-être le plus difficile à vivre. Et je pense que maintenant, cette pandémie, le temps d'attendre, ça va long, c'est difficile. Ça nous paraît lourd et pesant. Donc, ça prend du temps et il est important donc de ne pas chercher aussi des raccourcis. Ceux qui étaient là dimanche passé, on a parlé du deuil aussi, des étapes du deuil. Et on sait que dans les étapes du deuil, ça prend aussi du temps, jusqu'à ce qu'on arrive aussi finalement à accepter qu'on a perdu quelque chose ou un être cher, et qu'on puisse aussi, la dernière étape du deuil, se reconstruire. Et je me suis aussi posé la question si cet état désertique était lié aussi éventuellement à une source bouchée, voire à une source ignorée. Peut-être qu'il y a des sources dans le désert encore aujourd'hui qui existent, mais qu'on ignore. L'eau est là, mais on ne l'a peut-être juste pas trouvée encore. Il suffirait qu'une fois quelqu'un mette, et il pourrait utiliser cette eau et en faire aussi un oasis. Et dans ce cas, s'il y avait quelque chose de bouché ou peut-être d'ignoré, dans ce cas aussi, laissons Dieu agir par son esprit afin que les sources d'eau vive deviennent utiles et reconnues pour transformer nos déserts en oasis. Ça peut être beaucoup de choses, mais je pense en particulier aux dons, peut-être quelque chose qu'on a, quelque chose que Dieu nous a donné, de le partager, que ça peut bénir les autres. Alors qu'on puisse aussi réfléchir, est-ce qu'il y a des choses que j'ai mis un peu en stand-by, qui est un peu bouché pour l'instant, ou même des choses qu'on a, peut-être des rêves qu'on a une fois eus. Ça peut être des fois des choses qu'on a complètement oubliées, hein, et puis demander à Dieu, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, que tu m'avais données, peut-être des paroles ou des projets à faire et puis que j'ai jamais pu les mettre en valeur encore, les partager, qui deviennent vivants, que les projets deviennent vivants. C'est aussi ça, désert qui se transforme en oasis. Et le dernier thème que je vois dans ce psaume, c'est les versets 10 à 12. Là, on est invité à se réfugier auprès de Dieu pour être protégé et éclairé. J'aime bien ces deux métaphores qui sont utilisées ici. Pour nous, c'est peut-être des métaphores. Pour l'époque, c'était aussi, je pense, quelque chose de plus tangible, du bouclier et du soleil. L'homme qui a reçu l'onction était, ici dans ce cas, certainement le roi David, qui a été oint. Mais pour nous aujourd'hui, c'est Jésus, ce Messie, qui a reçu l'onction. Et Dieu nous voit à travers Jésus, à travers cet homme qui a reçu l'onction. Et c'est aussi par Jésus que nous sommes sauvés, pardonnés, mais aussi protégés du mal que Jésus a vaincu à la croix. Au verset 10, il est écrit « Veuille regarder l'homme » ou aussi « Veuille regarder le visage de loin ». Et je vois ici l'incarnation de Dieu en Jésus, pleinement homme, qui pose son regard d'amour sur nous. Son corps était pleinement homme, il a souffert jusqu'au bout comme un homme, et en même temps il a toujours gardé ce regard d'amour sur nous. Au verset 12, donc, il est dit que l'Éternel est non seulement notre bouclier, mais aussi notre soleil. Donc Dieu nous protège par sa force et il nous éclaire de sa lumière, afin qu'on puisse voir le chemin, voir où aller. Et le chemin n'est pas seulement un chemin, mais c'est une personne aussi. Je reviens, c'est important, Jésus est ce chemin. Jésus est la personne avec qui nous sommes invités à marcher sur le chemin, et lui est le chemin. Au verset 11, on voit que le psalmiste ou les psalmistes, les descendants de Corée, ont choisi leur lieu ou leur camp. Il est dit « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » La valeur d'être en présence de Dieu est inestimable. Et la valeur de notre relation personnelle avec Dieu et celle de nos relations en tant que corps formant le temple de Jésus est aussi très précieuse. C'est pour ça qu'on prie. Pourquoi pensez-vous qu'on se réunit? C'est pour ça. Pourquoi on vient ensemble? C'est pour prier. C'est pour rechercher cette présence de Dieu. C'est pour se laisser transformer. C'est la présence de Dieu parmi nous et la présence de Dieu en nous. Dieu accorde bienveillance et gloire, verset 12, ou dans certaines traductions, grâce et gloire, et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec lui dans l'intégrité. Alors pour ce mot, bon, je le connaissais déjà, vous connaissez tous l'intégrité, mais on peut des fois avoir un peu une idée, qu'est-ce que c'est l'intégrité? Et je me suis plongé dans le petit dictionnaire Le Robert, qui dit que c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Ou bien c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté ou la probité absolue. Est-ce que nous, on est encore intègres et intacts? J'ai envie de dire que le péché a fait que nous ne sommes plus intacts et intègres. On n'est plus intacts. Le péché a fait son travail et il nous colle toujours un peu à la peau. Dieu nous pardonne, on est pardonné, mais on peut aussi encore pécher. On n'est pas libéré pleinement du péché. Oui, quelqu'un qui lève la main.
Intact, qui n'est pas changé, quelque chose qui est comme à l'origine, je dirais.
Intact, Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Voilà, quelque chose qui, alors, qui est comme c'était au départ. Ça n'a pas été altéré, ça n'a pas été modifié, ça reste intact, qui n'a pas été touché. Ça reste la même chose, oui. Intègre, intact. Donc voilà, on a. Mais on n'est plus intact et entier, effectivement, mais nous avons lu que Dieu accorde donc bienveillance et grâce. Ce qui signifie que nous avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu à travers Jésus chaque jour. Et puis on a aussi lu être intègre, ça veut dire être honnête. Honnête, l'honnêteté, c'est égal, considéré comme égal à intégrité, honnêteté. Et là, je pense aussi être honnête avec soi-même, avec les autres. Et ça ne veut pas non plus dire être parfait. Parfois, on dit être intègre, on a peut-être notion, il faut être parfait. Non, c'est reconnaître notre état de pécheur pardonné qui a besoin de la grâce et de la justice de Dieu en Jésus. Et quelqu'un m'a une fois donné cette image, ça veut dire quoi être un pécheur pardonné, etc. Et il prenait l'exemple, on est des pécheurs abstinents. Alors voilà, c'est une façon de voir. Vous connaissez les alcooliques abstinents ou bien les groupes de personnes abstinentes. Ça veut dire ils veulent plus être l'alcool, mais ils sont ensemble pour se soutenir. Et de temps en temps, ils retombent, mais ils sont ensemble, ils se soutiennent, Dieu nous aide aussi. Ça veut dire, je trouvais, je l'ai assez bien compris, des pécheurs abstinents à méditer. Le dernier verset, le verset 13, je le vois comme une belle conclusion qui dit qu'il faut mettre sa confiance en Dieu. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en Dieu. On a un Dieu qui est fidèle et qui est digne de confiance. Il est dit que c'est le Seigneur dans ce texte ou dans d'autres traductions, le Maître de l'univers. On vit dans des temps pas mal d'incertitudes et avec l'incertitude, il y a la crainte, bien sûr. Donc on a besoin de pouvoir nous appuyer sur des certitudes qui se trouvent en Dieu et lui faire confiance. La confiance se construit et au fur et à mesure qu'on découvre Dieu dans notre relation, on découvre aussi son amour et sa fidélité. Peut-être qu'on a été des fois déçu, on a fait confiance à Dieu pour quelque chose, on lui a demandé quelque chose et il ne nous l'a pas donné. On a parlé ça aussi dimanche passé, quand Dieu ne répond pas. Peut-être notre confiance, elle est un petit peu envers Dieu. Ah, mais là, je te faisais confiance, ça n'a pas marché comme je l'imaginais. Et là, on doit se rapprocher de Dieu. Il doit peut-être nous montrer quelque chose de différent de lui, qu'on puisse lui refaire confiance, pleinement confiance. Et bien sûr, la confiance, c'est aussi. Peut être aussi touché, notre confiance en Dieu par rapport à ce qu'on vit dans notre expérience, que vous avez eu avec des personnes, comment vous avez pu leur faire confiance, ou comment parfois cette confiance a pu être trahie. Ça peut aussi influencer notre relation avec Dieu et a peut-être besoin aussi d'être guéri parfois. Donc voilà, j'ai envie de te dire et de dire à chacun que Dieu t'aime et qu'il s'intéresse à toi, qu'il compatit lorsque tu souffres et que tu es perdu, qu'il entend tes prières. Et puis ce qu'il cherche, c'est qu'une seule chose, Dieu. Jésus, c'est qu'à marcher avec toi. Il est le chemin à marcher avec toi, à t'entendre, à te parler et à te faire découvrir ces chemins tout tracés qui sont spécifiques pour toi et pour notre Église aussi. Tu peux vraiment faire confiance à notre Dieu. Je terminerai alors résumer ces trois points. Donc la présence de Dieu en nous et parmi nous par son Esprit est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Désirons-la comme les psalmistes, ou bien en autre version, aimons-la, chérissons-la, cette présence de Dieu. La force infinie et immuable de Dieu est capable de transformer nos vallées désertiques en oasis de vie. Et troisième point, ce Seigneur des armées célestes. Je ne suis pas trop entré sur ce sujet, ce que ça veut dire, mais je le vois ici comme conclusion, c'est celui qui combat en notre faveur pour nous protéger du mal. C'est notre bouclier. Et aussi pour nous éclairer le chemin, c'est notre soleil. Et sous le régime de cette nouvelle alliance, ben ce bouclier, il se trouve en Jésus, qui est le chemin et qui a aussi vaincu le mal. Voilà. Et on peut peut-être directement alors passer au slide suivant. C'est une habitude qu'on m'a dit, et je trouve super que les cultes se poursuivent en petits groupes pour pouvoir approfondir le sujet. Si j'ai été trop théorique, peut-être, vous avez des questions, vous avez l'occasion aussi, dans le cadre des petits groupes, d'échanger. Alors voilà, j'ai préparé là trois questions qui feront l'objet que vous pourrez utiliser dans les petits groupes. Je te laisserai après présider ça. Voilà, quelle est l'importance d'un bâtiment? Un peu une question générale, comme celui comme celui-ci de l'ELG de Versoix, pour vivre pleinement la présence de Dieu et former ce temple saint, saint dans le Seigneur. Avec cette devise, les formes d'Église sont éphémères, l'Église de Jésus-Christ est éternelle. Et puis deuxième question, comment est-ce que je trouve les chemins tout tracés dans mon cœur? Et troisième question, où est-ce que j'ai des facilités ou bien où est-ce que j'ai des difficultés à mettre ma confiance en Dieu et aussi éventuellement, et pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est facile de mettre votre confiance en Dieu? Voilà, Amen.